أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے
Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, débute la Jalsa Salana de la Jama de l'Espagne avec ce sermon. Cette conférence ou cette Jalsa Salana est organisée dans tous les pays où sont établies fermement la Jama d'Ahmadiyya. Et cette conférence a un aspect spécial. Et les membres des Jamaat des différents pays organisent cette conférence avec zèle et avec ardeur. Pourquoi est-ce qu'il y a un tel engouement pour la Jalsa? Est-ce qu'ils organisent ces réunions pour réunir les gens, comme pour des rencontres mondaines, pour que les gens s'amusent et se divertissent? Certainement non. Au cours des 120 dernières années, on a organisé cette conférence dans laquelle on a fait comprendre à la majorité des Ahmadis que nous sommes réunis ici pour deux ou trois jours en respect au désir du fondateur de la communauté qui voulait que les membres de sa communauté se réunissent pendant trois jours pour écouter les paroles de Dieu et de son prophète. Il voulait que nous nous réunissions pour écouter ces paroles, pour ensuite traduire ces paroles dans la pratique, pour apporter en soi ces changements purs qui vont nous rapprocher de Dieu. Les Ahmadis sacrifient leur temps professionnel et leur commerce afin de participer à ces conférences parce qu'ils ont en tête cette injonction du Messie promis dans laquelle il déclare qu'on ne doit pas considérer cette conférence ou cette réunion comme une simple réunion mondaine. Cette conférence est soutenue par Dieu et a comme objectif le renouveau de la foi islamique. Cette conférence n'est pas une manifestation des désirs du Messie promis. Il ne voulait pas uniquement que les gens se réunissent pour écouter les paroles de Dieu et de son prophète. Il n'a pas organisé cette conférence parce qu'il voulait que les gens reconnaissent Dieu, parce qu'il voulait uniquement que les gens soient attirés par la grâce de Dieu. Il a déclaré que Cette conférence a été organisée grâce au soutien de Dieu. Chaque parole prononcée par le prophète est soutenue par Dieu, et en agissant selon ses préceptes, l'on pourra se rapprocher de Dieu. Il pourra s'attirer les grâces divines. Mais lorsque l'ordre vient de la part de Dieu, on doit faire plus d'efforts pour traduire ces préceptes dans la pratique afin de s'attirer les faveurs divines. Et ainsi, il arrive à acquérir les faveurs de Dieu. Lorsque le soutien de Dieu accompagne l'homme, un simple effort de sa part fait de lui le récipiendaire d'innombrables récompenses. Et Dieu accorde ce soutien aux individus comme à la communauté tout entière. Ils sont chanceux, ceux qui parmi nous ont répondu en toute sincérité à l'appel de l'imam de l'époque et qui ont participé dans cette jalsa afin d'apporter en eux des changements purs et afin de faire partie de ce destin pour la victoire de l'islam. Destin que Dieu a fixé pour le Messie promis et pour sa Jamaat. Durant ce jour, on va vous présenter des mets spirituels en forme de discours, des discours qui sont basés sur les écrits du Messie promis, al-Islam, des paroles du Messie promis, al-Islam, qui sont soutenus par Dieu. Profitez donc de ces discours et embellissez votre vie ici-bas et votre vie de l'au-delà. Qu'Allah fasse que tout participant puisse avoir en tête cet objectif. C'est en ayant en tête cet objectif que l'on pourra profiter de la jalsa. Sinon, votre venue ici, le fait que vous avez écouté au discours, le fait que vous avez ressenti une ardeur temporaire en lançant des slogans sera inutile. Faites votre examen de conscience, implorez le pardon de Dieu, envoyez des salutations sur le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, afin que vous puissiez apporter en vous une révolution, afin que vous soyez de ceux qui vont répandre le message de l'islam et ses enseignements. Quel sera l'avantage pour ceux qui ont sacrifié leur temps? Ils ont sacrifié leur temps et leur profession et ils n'auront rien reçu en retour. Donc, dépensez à bon escient votre temps et essayez d'atteindre cet objectif et essayez de profiter des bénédictions de la jalsa. Si tout participant à la jalsa, jeune ou vieux, homme ou femme, arrive à comprendre ce point, vous allez constater que vous aurez des avantages et ensuite, petit à petit, des gens de bonne nature vont venir dans le giron de l'islam pour leur salut. La révolution que le Messie promis, al-Islam, devait apporter ne va pas se faire par l'épée ou par des ruses politiques. Cette révolution va se faire grâce à des changements purs. Cette révolution va se faire grâce à des prières. Voilà donc la révolution qui sera permanente. Cette révolution ne sera pas la proie d'aucun complot. Les gens ne pourront pas chercher d'occasion pour faire sortir l'islam de ce pays. Les gens vont faire des efforts pour mettre en pratique les enseignements de l'islam. Et ainsi, ils pourront embellir leur vie ici-bas et dans l'au-delà. Vous êtes quelques centaines ici, aujourd'hui, et la majorité d'entre vous sont d'origine pakistanaise. Sachez que vous avez deux grandes responsabilités. Aujourd'hui, c'est l'exemple de chaque Ahmadi qui va définir la vitesse du progrès de l'Ahmadiyya, l'islam véritable. Plus vite nous serons des exemples, plus vite nous allons prier, plus vite nous verrons le progrès de l'Ahmadiyya. Inch'Allah. Allah vous a accordé des faveurs, Allah vous a ouvert les voies pour entrer dans ce pays. Il fut un temps où une personne a répondu à l'appel du calife et est venue s'établir ici alors que la situation du pays était contre lui. On devait prendre le nom de l'islam en se cachant ici auparavant. On ne pouvait même pas prêcher ouvertement. Ce défenseur de l'Ahmadiyya n'a pas eu de soutien financier en raison de la situation difficile de la communauté alors. Il a vendu du parfum pour avoir de l'argent pour faire tourner la marmite et pour faire tourner la jamaat. Il était animé d'un zèle et d'un ardeur. Et c'est ainsi donc que Karam Ilahi Zafar Saheb a travaillé avec zèle et ardeur. Un temps est décrété pour chaque action. Et en fin de compte, selon le décret de Dieu, il fut un temps aussi où il n'y a plus eu de restrictions. Les membres de la Jamaat ont pu s'établir ici. Et les missionnaires ont pu s'établir ici facilement. Dieu nous a donné l'occasion aussi de bâtir une belle mosquée. Ceux qui sont venus s'établir ici en Espagne pourront témoigner que même si l'Espagne est en reste comparée aux autres pays européens, la majorité de ceux qui sont venus ici sont dans une meilleure situation financière. Et comparé au Pakistan, vous avez ici la tranquillité d'esprit. Certes, les pays européens regorgent d'immoralité. Je ne parle pas à ce propos. Certains parents ont certainement des soucis concernant la moralité et la spiritualité de leurs enfants. Je parle ici à propos de la liberté de culte, alors que dans certains pays, il y a des restrictions qu'on veut imposer. Dans la plupart des pays, il y a cette liberté de culte, mais on voit un début. Il y a des restrictions sur les minarets, il y a des restrictions sur le voile. En tout cas, généralement, il y a une certaine liberté. Il n'y a aucune loi de l'État qui pend au-dessus de votre tête telle une épée, en disant que vous serez emprisonné si vous lancez l'appel à la prière, ou que vous serez jeté en prison si vous proclamez l'unicité de Dieu. Remerciez Dieu donc pour cette liberté et cette tranquillité d'esprit et pour cette meilleure situation financière. Soyez reconnaissants et essayez de récolter davantage de faveurs divines. Mais ces progrès matériels ne doivent pas vous faire oublier Dieu, ne doivent pas vous éloigner de la foi. Ne croyez pas que Dieu vous a accordé ces faveurs en raison de vos aptitudes. Les ennemis de l'Ahmadiyya voulaient que les Ahmadis tombent à la mendicité, mais Allah a accordé des avantages aux Ahmadis, même à ceux qui étaient dans une situation financière plus précaire. On doit donc comprendre que Dieu est capable à nous accorder d'innombrables faveurs. Mais il peut aussi, en raison d'une action qui lui déplaît, manifester son courroux à notre rencontre. Et aucun être humain ne pourra contrecarrer le courroux de Dieu. Faites donc cette analyse constante. On doit comprendre que ces aisances matérielles ne doivent pas nous éloigner de Dieu et de la foi. Si cette aisance matérielle nous éloigne de Dieu, nous devons nous en soucier. Ce sera une situation déplorable. Chaque pas dans la voie vers le progrès matériel doit nous rapprocher vers la foi. Si l'on pense en ce sens et si on agit en ce sens, chaque pas que nous allons faire va apporter en nous une révolution. Et nous allons apporter une révolution dans notre environnement. On va apporter cette révolution qu'on a vue en ce pays il y a 800 ans de cela. Au cours de mon dernier sermon, j'ai évoqué le souci du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, en citant un hadith. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, avait déclaré que « Je ne me soucie guère quant à votre dénuement et votre situation précaire ou votre pauvreté. Je ne me soucie pas comment éloigner cette pauvreté si les gens de ma Oumma vont vivre dans l'aisance matérielle. Certainement, vous allez vivre dans l'aisance matérielle, vous allez recevoir ces richesses. Mais le souci que j'ai est qu'attention que vous ne soyez détruits à l'instar des autres peuples en vous adonnant complètement au plaisir de ce monde, en vous vautrant dans les richesses de ce monde. Nous voyons que l'or noir de certains pays musulmans arabes ont détourné ces gens de la foi. Ces gens se disent être les porte-drapeaux de l'islam. Mais leurs actions sont éloignées complètement de l'islam. Et cet éloignement de l'islam affecte aussi ceux qui pensent que tout ce dont nous avons besoin d'apprendre à propos de l'islam va venir de l'Arabie saoudite. Ils pensent qu'ils représentent l'islam véritable. Il y a un musulman non-ahmadi du Nigeria qui a accompli le pèlerinage à la Mecque, mais qui n'a pas abandonné l'alcool pour autant. Un ahmadi s'est adressé à lui en lui disant « Crains Dieu, tu es un hadi maintenant, tu dois abandonner l'alcool. » L'autre lui a répondu, « Es-tu là pour m'enseigner l'islam ?» J'ai vu l'alcool même en Arabie Saoudite. Et j'ai vu des musulmans en consommer. J'ai vu cela dans les environs de la Mecque. C'est là donc l'accomplissement de cette prophétie du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. C'est là donc l'accomplissement de ce souci qui a pris la forme de cette prophétie. C'est-à-dire qu'il avait peur que sa jamaat soit détruite. L'alcool est considéré comme la mère des vices. Lorsque le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a annoncé l'interdiction de l'alcool suite au commandement de Dieu, le vin a coulé à flot dans les ruelles de Médine, car les compagnons avaient détruit leur jarre de vin. Ils l'ont fait sans broncher. Et aujourd'hui, un Africain est parti au pèlerinage pour se purifier. Et il revient avec la permission de commettre un péché. N'est-ce pas cela la destruction? Y a-t-il plus grande destruction que cela? La richesse a perverti complètement les musulmans et leur situation est des plus exécrables. Allah a qualifié l'alcool du plus grand des péchés, un péché qui appelle d'autres péchés, un péché qui nous empêche d'accomplir des actes de vertu. L'alcool et le jeu du hasard ont été liés ensemble dans le Saint-Coran. Et il a déclaré que ce sont de grands péchés. Ces vices sont la cause de la destruction des musulmans et des autres, car ce sont des actes qui éloignent l'homme de la foi. Ce sont des actes qui nous éloignent de Dieu. Et lorsque l'homme s'éloigne de Dieu, il se rapproche de sa destruction. Dans ces pays, les gens consomment de l'alcool comme de l'eau. Dans chaque restaurant, dans chaque coin de rue, dans chaque station-service, on voit l'alcool en vente. Et l'on voit aussi des machines à sous, ces jeux du hasard. Et on considère ces choses comme des signes du progrès. Dans un tel environnement, les Ahmadis doivent marcher avec maintes précautions. Non seulement qu'ils doivent se protéger de ces péchés, mais ils doivent aussi protéger leurs générations futures, leurs enfants, surtout les adolescents, de ces jeux du hasard, de ces vices. Vous devez leur faire comprendre la nocivité de ces actes. On commence à s'habituer aux jeux du hasard par amusement et en fin de compte, cela se transforme en addiction. Et finalement, on est complètement submergé par ce vice. Il y a certes quelques Ahmadis qui en sont affectés, mais ces vices sont plus courants parmi les non-Ahmadis. Et ils ne considèrent pas cela comme des interdits. Ils ont été complètement submergés par l'environnement d'ici et ils ont des bars même dans leur maison pour stocker leur alcool. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a maudit toutes ces personnes, ceux qui fabriquent l'alcool, ceux qui stockent l'alcool, ceux qui distribuent l'alcool ou ceux qui en consomment. C'est donc une situation effrayante. Et lorsque je m'adresse aux Ahmadis en leur disant de ne pas travailler dans des endroits où on est en train de distribuer ou de servir l'alcool, je leur prodigue ces conseils car cela peut amener leur destruction. Il ne faut pas croire que les autres restaurants marchent très bien parce qu'on y sert de l'alcool. On ne doit pas croire que les musulmans ou certains musulmans ont donné la permission de vendre de l'alcool dans leur restaurant ou de servir la chair de porc. Quant à nous, nous ne sommes pas intéressés par une richesse qui amène la destruction. Nous avons besoin, quant à nous, des provisions pures qui vont nous rapprocher de Dieu. Ces personnes sont aveugles spirituellement et suite aux prophéties, les richesses matérielles vont leur tomber dessus. Un vrai musulman doit tout le temps accorder préférence à sa foi aux choses mondaines. C'est ainsi qu'il doit agir. Toutes les religions sont mortes spirituellement, sauf l'islam. Si ces gens agissent ainsi, cela ne va pas à l'encontre de leurs enseignements religieux. Même si c'est un mal, ils ne s'en soucient guère, ils ne se soucient pas des conséquences de leurs actes. Si leurs actions ne seront pas source de salut pour eux, ils vont changer leur concept de vice et de vertu. Aujourd'hui, c'est l'islam qui présente l'exemple du Dieu vivant. C'est l'islam qui va montrer la voie vers le vrai Dieu jusqu'à la fin des temps. Dieu a aussi promis d'envoyer des réformateurs lorsque l'islam va passer par des phases de déclin. Et aujourd'hui, c'est le Dieu de l'islam qui a envoyé le Messie promis pour faire ramener la foi du ciel. Et c'est le Dieu de l'islam qui a établi le système de califat de nouveau parmi vous après le Messie promis à l'islam, un système qui est permanent, un système grâce auquel il unit tous les croyants afin que l'on voit la beauté spirituelle de chaque individu, afin que l'on puisse accorder préférence à la foi, afin qu'on ait une direction à suivre. La foi des musulmans est une foi vivante, une foi qui sera permanente, une foi dont la protection a été promise par Dieu. L'islam est une religion vivante, une religion qui règnera selon les promesses de Dieu. Si un musulman s'éloigne de Dieu, il va détruire sa vie ici-bas dans l'au-delà. L'Ahmadiyya va progresser, Inch'Allah, et aucune force au monde ne pourra arrêter son progrès. Nous, qui disons être des Ahmadis, nous avons promis de vivre selon les préceptes du Messie promis, le Messie promis qui est l'imam de l'époque et cet amoureux parfait du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Notre but n'est pas ce monde. Notre but est la foi. Sinon, le serment d'allégeance n'aura aucun effet. Cette foi, c'est-à-dire l'islam, va certainement progresser. L'Ahmadiyya va certainement voir la victoire. L'islam est une religion vivante, une religion qui ne mourra pas. Mais tout comme l'a déclaré le saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui, quant à celui qui va oublier cet enseignement, il va partir dans la direction de sa destruction. Le saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui, n'a pas démis de soucis à propos de l'islam. Il n'avait pas déclaré qu'il avait peur que l'islam disparaisse en raison des actions néfaste des musulmans. Dieu a déjà promis la victoire de l'islam et le saint prophète avait une certitude parfaite en cela. C'est-à-dire, quelle que soit la situation, la dernière victoire appartiendra à l'islam. Le saint prophète, paix soit sur lui, a averti les musulmans, les membres de sa umma. Il a déclaré qu'il avait peur, attention, que vous vous éloignez de la religion et que vous invitiez votre destruction en étant épris de ces choses matérielles. Les compagnons du saint prophète Mohammed, peace soit lui, ont accordé prééminence à leur foi, même s'ils étaient riches. En dépit d'avoir acquis les choses matérielles, ils ont tout le temps accordé prééminence à leur foi. Et ils ont dépensé leur richesse pour la cause de Dieu. Ils sont passés par des situations difficiles. Ils ont vécu dans le dénuement. Et ils ont vécu aussi dans la richesse. Et certains, lorsqu'ils sont décédés, ont laissé de grandes richesses. Et on a distribué des sommes immenses parmi leurs héritiers. Ils ont dépensé leurs biens sans compter pour la cause de Dieu. Ils n'ont pas bâti ces richesses par avarice, mais ils l'ont fait pour attirer les grâces de Dieu et Dieu a béni leur commerce. Ils se sont acquittés de leurs devoirs religieux. Nous devons donc avoir en tête ces exemples. Et nous devons nous aussi vivre selon ces exemples. Et c'est là que nous pourrons être parmi les awalin. C'est ainsi que nous pourrons maintenir ces faveurs. Et c'est ainsi que nous pourrons attirer des grâces de Dieu. Les Ahmadis qui vivent en Espagne doivent comprendre qu'ils vivent dans un pays où des musulmans étaient les souverains à une époque donnée et où la majorité de la population était musulmane. Et même après des centaines d'années, nous voyons de grands bâtiments, de grands châteaux, des mosquées dans lesquelles l'on voit gravé dans la pierre les paroles « La ilaha illallah ». Mais dans ce même pays, les musulmans se sont attachés aux choses matérielles. Et ainsi, à chaque pas, nous voyons des signes de leur décadence. Il fut un temps où les souverains et les princes chrétiens demandaient l'aide des musulmans. Et cela en dépit du fait qu'ils avaient de l'animosité à l'égard des musulmans. En dépit de leur faste et de leur honneur, ils se présentaient dans la cour des souverains musulmans. Les historiens chrétiens ont été contraints d'écrire tout cela. Et les souverains musulmans étaient orgueilleux parce qu'ils savaient que les souverains, les princes chrétiens, étaient impressionnés par leur apparat et par leur richesse. Mais lorsqu'il y a eu des guerres intestines lorsqu'ils ont eu pour but que les plaisirs de ce bas monde, ils ont tout perdu et la situation s'est retournée sens dessus-dessous. Et les rois musulmans ont commencé à chercher la protection des rois chrétiens. Et le monde a vu l'humiliation et la fin des musulmans en Europe. Mais la promesse de Dieu est que la victoire finale appartient à l'islam. Et pour le parachèvement de cette tâche, Dieu a envoyé le Messie promis à l'islam. Et cette tâche a été confiée maintenant au suivant du Messie promis à l'islam. Cette tâche, c'est la renaissance de la foi. Et la renaissance de la foi va nous accorder une nouvelle vie à nous. Si nous nous vautrons dans les plaisirs de ce bas monde, et si en s'établissant ici, nous ne cherchons que le confort matériel, nous n'allons pas respecter l'engagement que nous avons pris avec le Messie premier, l'Islam. Sachez que Dieu va nous demander des comptes à propos du serment que nous avons prêté aux mains du Messie promis à l'Islam. Allah déclare à ce propos « Wa awful bil ahdi inal ahdi kana mas'oula » et respectez vos engagements car vous serez questionnés à ce propos. La miséricorde de Dieu est immense. Il peut accorder sa miséricorde à qui il le désire. Mais que l'on sache aussi que l'on ne peut jamais tromper Dieu. S'il le désire, il demandera des comptes concernant chacun de nos engagements. Et lorsqu'on commence à faire l'analyse de sa personne, l'on est tout effrayé. Nous devons nous demander, sommes-nous en train de respecter l'engagement que nous avons pris au Messie promis à l'Islam? Le résumé des 10 conditions de la Baïa est de respecter les engagements ou nos engagements envers Dieu et envers les créatures de Dieu. Voilà les choses que nous devons tout le temps avoir en tête. Ensuite, il y a le fait d'envoyer des salutations sur le saint prophète Mohammed, peace soit lui, et de faire preuve d'une obéissance parfaite à l'égard du Messie promis à l'Islam et d'accorder prééminence à la foi. Tout Ahmadi doit avoir en tête les 10 conditions de la Bay'a. Et c'est là que nous pourrons soutenir le Messie promis à l'Islam dans sa mission. C'est là que nous pourrons vivre une vie spirituelle complète. Certaines personnes, en raison de leurs priorités, en raison de leur profession, n'arrivent pas à apporter une attention soutenue à l'égard de la foi. Telle est la nature de l'homme. C'est pour cette raison que de temps en temps, il doit répéter cet engagement, cette promesse faite. Les Ahmadis de l'Espagne voient à chaque pas les vestiges qui vont les mener vers le passé. En voyant cela, on doit faire l'analyse de sa personne. À chaque grande avenue, l'on voit les noms des villes et ces noms indiquent vers une période de gloire de l'islam. Mais l'avidité, la politique, et la tromperie, la luxure, les plaisirs éphémères de ce bas monde ont transformé tout cela en histoire et en légende. Et les musulmans ont perdu un pays musulman. C'est la Jamaat Ahmadiyya qui doit rétablir cela. Et ils doivent être des véritables serviteurs du Saint-Prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ils doivent être des exemples pratiques des enseignements de l'islam. L'islam est fraternité et égalité et amour. Au sein de l'islam, on nous enseigne de nous acquitter de nos devoirs envers Dieu et envers les créatures de Dieu. On va pouvoir générer en soi ces qualités lorsqu'on va comprendre le but réel de sa vie. Tout Ahmadi, jeune ou vieux, homme ou femme, doit comprendre le but de sa vie. Le but qui a été indiqué dans le Saint-Coran, « Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » « J'ai créé les djinns et les hommes pour qu'ils m'adorent. » Lorsqu'on va faire des efforts pour atteindre cet objectif, lorsqu'on va progresser spirituellement, on va apporter en soi des changements purs. On pourra se préparer pour mener une vie spirituelle et on pourra aussi préparer les autres pour cette vie spirituelle. À ce propos, le Messie promis, alayhi salam, déclare que l'homme a été créé tout naturellement pour l'adoration de Dieu. Tout comme il est dit, « Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » Dieu a inscrit cela dans sa nature. Et par des moyens subtils, Dieu a créé l'homme pour lui. Cela nous fait comprendre que le but de la création de l'homme est d'adorer Dieu. Mais quant à ceux qui abandonnent cette voie naturelle et qui se contentent de manger, de boire et de dormir comme les animaux, eh bien, Allah n'est pas responsable d'eux et ces personnes s'éloignent de Dieu. Une vie de responsable est de comprendre ce verset « Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ». Vous devez accepter ce verset et changer l'aspect de votre vie. Vous devez accepter cette injonction « Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » et changer l'aspect de votre vie. Comprenez donc le but de votre vie, c'est-à-dire consacrez-vous à l'adoration de Dieu et ne soyez plus négligent concernant l'adoration de Dieu et essayez de progresser dans ce domaine. On ne connaît pas quand frappera la mort. Vous devez comprendre que votre but premier est d'adorer Dieu. Vous devez vous consacrer à lui. Le monde ne doit pas être votre but. C'est pour cette raison que j'ai répété à plusieurs reprises que l'homme a été créé pour Dieu. Et c'est pour cette raison aussi que dans certains cas, il s'éloigne de Dieu. Je ne dis pas que vous devez abandonner votre commerce, que vous devez abandonner femmes et enfants pour vivre en réclusion. L'islam ne permet pas le monachisme. L'islam veut faire de l'homme une créature éclairée, perspicace et agile. C'est pour cette raison que je dis que vous devez travailler avec ordre. Dans ce hadith, il est dit que celui qui a un terrain et qu'il n'utilise pas ce terrain, il aura des comptes à rendre à ce propos. Si vous n'êtes pas sérieux concernant votre emploi, vous aurez des comptes à rendre à ce propos. Donc cela ne veut pas dire que l'on doit se détourner de tout commerce ou de tout effort. En fait, vous devez accomplir tout cela pour avoir le plaisir de Dieu. Peut-on avoir le plaisir de Dieu en accomplissant des actes qui vont à l'encontre de la charia? Pourra-t-on avoir le plaisir de Dieu en faisant le commerce de l'alcool et de la chair de porc? Tout Ahmadi qui habite en Europe doit comprendre donc ce point important. Le Messie promis, alayhi salam, déclare aussi que vous devez avoir pour but le plaisir de Dieu et vous ne devez pas accorder prééminence à vos désirs. On doit tout le temps avoir en tête le plaisir de Dieu. Nous sommes réunis ici pour atteindre cet objectif. C'est pour cette raison que durant ces jours, vous devez vous consacrer à l'adoration de Dieu et vous devez prier davantage. Et vous ne devez pas tirer un avantage temporaire des conseils qui ont été prodigués ici. Vous devez renouveler votre engagement et faire en sorte que ces conseils fassent partie intégrante de votre vie. Vous devez renouveler votre engagement. Et quand vous allez retourner, que vous compreniez que vous avez apporté des changements en vous. Priez aussi pour que la situation ne s'empire pas dans ces pays, que nous ayons à émigrer de nouveau. Et si nous avons à émigrer, que nous retournions dans notre pays, où nous aurons la possibilité de pratiquer notre foi en toute sincérité. Toute personne qui participe à cette jalsa doit comprendre son statut véritable. Il y a une délégation qui est venue du Maroc. Ces Ahmadis marocains doivent être des exemples pour leurs concitoyens afin de les attirer. C'est ainsi qu'ils pourront s'acquitter de leurs devoirs envers leurs concitoyens. Qu'Allah nous en donne la possibilité. J'ai une nouvelle très triste à annoncer concernant un crime abominable commis au Pakistan, un acte atroce qui a été commis hier soir, c'est-à-dire jeudi soir. C'était vers 22h quand trois Ahmadis du Pakistan de la région de Faisalabad ont été assassinés. Il y avait parmi eux Sheikh Arshaf Saheb et Sheikh Massoud Javed, qui étaient les fils de Sheikh Bashir Javed. Il y avait aussi parmi les personnes assassinées Asim Massoud, qui était le fils de Sheikh Massoud Javed. Ils avaient fermé leur magasin et ils retournaient en voiture. Lorsqu'ils sont passés tout près d'un hôpital, il y avait 4 ou 5 hommes armés qui leur ont tiré dessus. Ils étaient grièvement blessés et ils sont décédés en cours de route pour l'hôpital. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ashraf Parvez avait 60 ans, son frère Massoud Javed avait 57 ans. Asim Massoud, c'est-à-dire le fils de Sheikh Massoud Javed, avait 24 ans. Il était marié et il avait une fille d'un an. Ashraf Parvez Saheb a laissé sa femme et deux filles qui sont mariées. Il a un fils de 27 ans qui est marié et un fils de 22 ans qui n'est pas encore marié. Sheikh Massoud Javed Saheb a laissé deux filles.
Or
un de ses fils avait été assassiné auparavant. Il a laissé un autre fils. Cheikh Bashir Saheb était le père de Cheikh Ashraf et Cheikh Massoud et le grand-père de Cheikh Massoud Saheb. Lui-même, il était un Ahmadi très sincère et la mère de Cheikh Bashir s'appelait Zaina Bibi. Elle était la femme de Murad Bakhsh et elle avait des liens avec la famille du deuxième calife. Elle apportait des vêtements pour les femmes de la maison du deuxième calife afin que celle-ci n'ait pas à partir dans les magasins. Et c'est Zaina Bibi qui avait prêté allégeance la première dans sa famille. Et son mari Murad Bakhsh a prêté allégeance plus tard. Et après la partition de l'Inde et du Pakistan, ils ont ouvert un magasin à Rail Bazar en 1974. Ils ont perdu leur magasin, mais Allah les a accordé des faveurs et ils ont ouvert un magasin de vêtements et de bijoux. C'était des personnes sincères. Ils marchaient sur les voies tracées par leur père. Je ne sais pas quand aura lieu leur prière funéraire, mais après la prière de Juma, je vais diriger leur prière funéraire. Les Ahmadis sont la cible des attaques à Faisalabad. On est en train de kidnapper certains, ont été tués. Qu'Allah nous accorde sa grâce. Au Pakistan, il y a des centaines de personnes qui sont en train de mourir sans aucune raison et ils ne savent pas pour quel crime ces personnes sont-elles en train de mourir. Ils sont en train de mourir en raison des crimes commis à l'encontre des Ahmadis. Les Ahmadis sont en train de mourir pour une cause. Et après chaque martyr, le statut de la famille du martyr grandit davantage et la Jamaat progresse davantage. Ces martyrs sont vivants pour tout le temps. L'ennemi croit les avoir tués. Eux, ils ont eu leur statut et auprès de Dieu, ces personnes sont vivantes pour tout le temps. Le sang de ces martyrs va porter ses fruits et le sang de tout martyr va porter ce fruit. Mais je m'adresse aussi aux Ahmadis du Pakistan, surtout ceux qui habitent dans des endroits sensibles. Les Ahmadis qui sont connus dans ces régions doivent changer leur routine et leur aller et venu. Qu'Allah exalte le statut de ces martyrs, qu'Allah leur accorde sa grâce et sa miséricorde, et qu'Allah accorde la patience à leur famille, et qu'Allah leur accorde patience et persévérance, qu'il soit tout le temps leur soutien, qu'Allah accorde sa protection à tout Ahmadi au Pakistan.